bonsoir. Avant de faire appel pour cette séance du vendredi 12 mars, j'avais trois informations. Donc, la première, on vous a posé sur votre table une demande de monsieur le sénateur Alain Milon pour des coordonnées utiles. Vous êtes obligé de le remplir. Si vous voulez le remplir pendant le CM, vous le remettez à monsieur Romain Androti de DGS pour qu'il puisse l'envoyer par mail ou sinon vous l'envoyez de votre propre chef. Deuxième information, donc, comme lors du CM du 18 décembre 2020, j'informe l'Assemblée que la séance du Conseil municipal de ce soir sera diffusée à nouveau sur la page Facebook de la mairie conformément à la réglementation en vigueur. Et elle se déroulera sans public vu le couvre-feu. Troisième information, suite à la démission de Madame Alexandra Dana du Conseil municipal, je souhaite la bienvenue à M. Henri Carpentras, suivant sur la liste et qui a accepté de siéger au Conseil municipal. M. Carpentras, est-ce que vous voulez prendre la parole?
Bon, je suis content de vous voir.
Merci beaucoup. Je passe à l'appel. Donc, M. Aynosa Fabrice. Madame Amaya Irios Estelle.
Présente.
Madame Bonifaci Sylvie.
Présente.
Monsieur Bouc Philippe, absent. Pouvoir donner à Monsieur Robet. Madame Caligari Virginie. Présente. Monsieur Carpentras Henri.
Présent.
Madame Côté Soto Sophie, absente. A donné pouvoir à Monsieur Fougère. Madame Cotel Laurence. Monsieur Defesse Jean-Marc, absent. Monsieur Flaugeron-Henri, présent. Madame Fraisse Alexandrine.
Présent.
Monsieur Grappin Jean-Louis.
Présent.
Monsieur Guarinon Jean-Marc.
Présent.
Madame Hermitan Tamara, absente. A donné pouvoir à Madame Sauvadon. Madame Kerbrat Isabelle.
Présent.
Monsieur Lambertin Jean-Pierre.
Présent.
Monsieur Midi-Révé Gérard.
Présent.
Monsieur Morel Stéphane.
Présent.
Monsieur Paré Franck. Absent. A donné pouvoir à Madame Bonifaci. Monsieur Robin Christophe.
Présent.
Monsieur Sardou Nicolas.
Présent.
Madame Sauvade Sandrine. Absente. A donné pouvoir à Madame Carbrat Isabelle. Madame Sauvadon Césarine.
Présent.
Madame Bati Samira.
Présent.
Madame Solillac Aline. Absente. Madame Souveton Anne-Marie.
Présent.
Madame Zandrini, Mercedes.
Présent.
Merci. Élection du secrétaire de séance. Je vous propose Madame Isabelle Cabot. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la deuxième délibération, il y a eu une copie à la fin de la délibe, c'est-à-dire que ce n'est pas du 18 décembre 2021, mais du 18 décembre 2020, et qui est à m'en excuser. Approbation du procès verbal de la séance du 18 décembre donc 2020. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Grappel.
Bonsoir à tous. Juste relever au travers du compte rendu tel qu'il a été fait, des propos qui, pour le moins, sont erronés, voire mensongers, et j'en citerai trois. Je vous renvoie en page 5, où il est fait état que M. le maire indique à M. Grappin qu'il s'est désolidarisé dans le cadre de l'hommage à Samuel Paty que la mairie avait publié sur son compte Facebook. Je vous renvoie à votre publication du 19 octobre. Aucun commentaire n'a figuré sur la page Facebook. Je tiens les copies d'écran si certains voulaient encore en douter. Je n'ai de la même façon pas plus commenté sur ma page Facebook personnelle ce qu'a pu dire la mairie. Je n'avais sur ce volet-là que fait que partager une publication le 18 octobre de groupe Agir Ensemble. Donc, je vous demanderai de corriger ces propos. Et si à un moment donné, je me désolidarisais en disant qu'on pouvait ne pas toujours être d'accord avec vous. C'était lors d'échanges que j'ai pu avoir un protest auto sur la façon que la mairie avait eu de communiquer. Elle avait publié un arrêté préfectoral de 183 pages et j'ai dit qu'il me semblait sans doute plus cohérent que l'on vienne de résumer. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir, toujours de la même façon, c'est les... On bascule en page 9, où M. Lambertin a voulu faire un état de la situation soi-disant inquiétante des finances de la petite commune. Tel que le avait décrit M. Perron, vice-président aux finances de la communauté de communes. Je crois que la réponse a été apportée par M. Perron dans la presse locale du 20 janvier. Je crois que la réponse a aussi été apportée lors du conseil communautaire de mardi. Il était question du débat d'orientation budgétaire. Et M. Lambertin, qui aurait pu avoir la parole ce jour-là, pour dire que les finances de l'Interco n'étaient pas bonnes, ne l'a pas tenu, n'a pas réagi. Voilà, donc, est-ce que ce qui est vrai en séance du conseil municipal de la commune n'est plus en séance du conseil communautaire? Je ne sais pas. Le dernier point, je bascule en page 11, où il a notamment été question de ce qui se passait sur la nuit d'Orange, et M. Lambertin nous reprochant, municipalité précédente, d'avoir assuré le transfert dans la voirie communale de 4,6 km de voirie départementale. Je faisais état d'une délibération qui avait été prise valant déclassement. Monsieur Lambertin affirmant que cette délibération n'existait pas. Monsieur le maire, je viens vous remettre un exemplaire de la délibération du 25 novembre 1993. Donc sous la présidence de M. Lambertin, maire, cette délibération fait état que suite à l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 octobre au 18 octobre relative au projet de déplacement de toutes les voiries, il est fait état de ces 4,6 km hein, qui correspondent à RD204A et RD63 et que le conseil municipal de la Palue acte en avoir délibéré donner un avis favorable à ce déclassement. Bon acte.
Premier point concernant le commentaire au sujet de l'Interco, bon, là-dessus, je ne m'étalerai pas longtemps là-dessus, simplement dire que ce que j'ai indiqué l'autre fois, c'est ce qui nous a été répondu lorsque l'été dernier, on a demandé la mise en place d'une dotation de solidarité intercommunale. J'ai réinventé ce qui nous avait été répondu à l'époque. Depuis, et j'en remercie l'Interco, nous avons pu en partie rétablir cette dotation. Elle nous permettra donc de faire un peu face, je crois, un peu face aux errements communaux de gestion de M. Grappé. Pour l'instant, donc, je ne souhaite pas répondre davantage, donc... c'est pas la peine, le temps est précieux et l'ordre du jour est chargé. Le deuxième point concernant les voiries, donc, le département avait essayé à une époque donc, de nous faire récupérer les voiries, on s'y était toujours opposé, il n'y a jamais eu de convention de récupération des voiries de signer, à part par vous, moi je n'en ai jamais signé à l'époque, j'ai toujours refusé la récupération de ces 4 km 400 ou 500 de voirie de traversée de la commune au niveau du département. Voilà. Je n'ai jamais signé de convention d'acceptation de cette affaire-là. C'est tout.
Y a-t-il d'autres questions? Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Troisième délibération, débat d'orientation budgétaire, M. Jean-Marc Cardinos.
Alors, merci. Donc, le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes. en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d'une collectivité préalablement au vote du budget primitif. Bon, les objectifs principaux du DOUB, c'est d'échanger sur les orientations budgétaires de la collectivité et informer sur sa situation financière. Donc ensuite, on vous a mis dans le document un certain nombre d'informations nationales, même européennes, mondiales. Donc c'est vraiment de l'information. On va peut-être passer au volet fiscal qui nous intéresse plus au niveau communal. Donc je parle de la page 11, le volet fiscal. Donc poursuite de la réforme de la fiscalité locale avec la suppression du premier tiers de la taxe d'habitation pour 30% pour les 20% de contribuables les plus aisés à compter de 2021. Transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements aux communes et d'une fraction de la TVA aux départements et PCI pour compenser la perte de taxe d'habitation au 1er janvier 2021. Neutralisation des effets de la réforme sur les potentiels fiscaux et indicateurs financiers en intégrant la péréquation 2021 afin d'éviter une déstabilisation de la péréquation financière entre collectivités. Et suppression de 10 milliards d'euros d'impôts économiques locaux, c'est des composants de la manière suivante. 7,25 milliards de contributions sur la valeur ajoutée des entreprises compensées par de la TVA pour les régions et 1,75 milliard de taxes foncières sur les propriétés bâties et 1,54 milliard de cotisations foncières des entreprises sur les sites industriels, soit moins 3,3 milliards pour les communes et EPCI compensés par un prélèvement sur recettes de l'État évolutif selon les valeurs locatives. Donc ça, c'est les grandes lignes de ce qui nous attend pour 2021 et les années suivantes. Ensuite, on peut parler, page 13, rapidement, de l'entrée en vigueur de l'acte 2 de la réforme de la taxe d'habitation. Donc en 2020, 80% des ménages ne payaient d'ores et déjà plus de taxe d'habitation sur les résidences principales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt bénéficieront d'un dégrèvement de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. Ainsi, en 2023, plus aucun foyer ne payera cette taxe sur sa résidence principale. En compensation de la suppression de la TH, les communes et établissements publics de coopération intercommunale percevront respectivement la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties et une fraction de la TVA. Ensuite, il y a quand même un filet de sécurité financier qui est reconduit. Ce dispositif garantit un niveau minimal de recettes fiscales et domaniales aux communes et à leurs intercommunalités. Comme en 2020, toutes les communes et tous les EPCI disposeront en 2021 d'une ressource globale au moins égale à la moyenne de leurs recettes fiscales et domaniales des trois dernières années. Donc ça, c'est juste pour éviter que les communes touchent moins d'une année à l'autre, surtout avec les différents changements qui sont intervenus. Ensuite, on vous propose une petite rétrospective du compte administratif 2020, où effectivement, on constate donc au niveau de la section de fonctionnement un excédent global au 31-12-2020 de 497 000 euros. Bon, on va arrondir tout ça. Hein. Donc on va dire qu'on a 500 000 euros d'excédent fin 2020 en fonctionnement. Je vous rappelle que fin d'année 2019, l'excédent reporté s'élevait à 868 000 euros. Donc, nous avons une baisse considérable de notre excédent reporté, due principalement à la baisse de la DSC, c'est sûr, mais pas uniquement. Mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. En ce qui concerne la section d'investissement, là, par contre, le résultat est positif pour 120 000 euros. Donc, il y a plus de recettes que de dépenses, ça c'est déjà bien. Et nous avons des restes à réaliser positifs à hauteur de 24 000 euros. Donc là, on a un petit excédent global de 144 000 euros en investissement. Pour l'exercice 2020, bien entendu, ce n'est pas beaucoup. Il faut être conscient de ça. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va peut-être, là, dans le document, vous avez tout le détail compte par compte. On ne va peut-être pas rentrer dans ce détail-là pour aujourd'hui, parce que sinon on ne pourra pas débattre, et ça serait, le but c'est quand même qu'on puisse en parler ensemble. Donc on va simplement reprendre les incidences de l'épidémie du Covid-19 sur la section de fonctionnement. Donc là, effectivement, on vous a donné un petit détail de ce que ça a coûté à la commune, mais aussi des économies que ça a générées, parce qu'effectivement, les services ont à un moment donné, par moment, été arrêtés. Donc effectivement, il y a aussi eu des économies. Donc je pense que vous l'avez... Je ne sais plus à quelle page c'est. Voilà, c'est à la page 21. Vous avez donc le détail. Donc, globalement, donc le coût de la pandémie hors coût personnel est estimé au 31-12-2020 à 12 012 euros. Voilà, donc c'est ce que ça a coûté à la commune. Voilà, en sachant que la CCRLP, de son côté, a également fourni des masques et a aussi eu des dépenses, et mais plus élevées que les nôtres, hein, puisqu'ils ont fait un soutien aux entreprises. Donc, voilà, il y a eu pour 500 000 euros de dépenses au niveau intercommunal. Voilà, donc ça, c'est juste pour introduire un petit peu maintenant le débat. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la baisse des recettes en 2020 est liée notamment à la baisse de la dotation de solidarité communautaire. Alors, on en a beaucoup parlé, hein. C'est vrai que la DSC, ça nous a permis les dernières années de vivre plutôt confortablement au niveau de la PALU. Le fait que cette DSC aujourd'hui soit réduite, alors effectivement, la communauté de communes, pour l'instant, a fait d'autres choix. On espère bien entendu qu'on pourra en renégocier une partie fin d'année 2021, car au cours de l'année 2021, nous allons avoir un travail important à faire au niveau communautaire, c'est l'élaboration du projet de territoire et bien sûr également le pacte financier qui est lié au projet de territoire, parce qu'il faut bien financer le projet de territoire. Donc effectivement, donc là, dans ce cadre-là, on espère qu'effectivement l'intercommunalité pensera aux petites communes comme nous qui avons besoin de soutien financier. Voilà, donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un mécanisme un petit peu compliqué qui s'est passé les dernières années, c'est qu'à chaque fois qu'on a transféré des compétences à l'interco, nous avons donc dû les chiffrer, parce que ça nous coûtait en charge. Donc, au moment où on a transféré les compétences ou un service, on a également calculé ce que ça nous coûtait à nous et on l'a déduit de l'attribution de compensation que nous verse l'intercommunalité. Ça, c'est la CLECT qui fait ces calculs-là et la commune, d'ailleurs, délibère aussi pour accepter ces chiffres. Donc ça, c'est ce qui a été calculé à un moment donné. Je pense que les calculs ont été plutôt bien faits, puisqu'on a tenu compte que du fonctionnement et pas de l'investissement, donc ça c'est bien, c'était plutôt favorable pour nous. Par contre, ce qu'on constate, surtout 2018-2019, ce qu'on constate, c'est que les sommes qui ont été retirées de l'attribution de compensation, donc on nous a enlevé un petit peu d'argent. Alors l'attribution de compensation, c'est le montant de la taxe professionnelle que percevait la commune de la PALU l'année précédant le passage en communauté de communes à fiscalité propre et à fiscalité professionnelle unique. Ça date un peu. Donc ce montant-là représentait la fiscalité professionnelle, je vous la fais en gros, hein, c'est ça. Hein. Et à chaque fois qu'on transfère une compétence, on calcule combien elle coûte et on le diminue, puisque c'est une charge en moins pour nous. Donc la Comcom nous reverse un petit peu moins, puisque cette charge-là, c'est elle qui la prend en compte. Donc les augmentations de services annuels qu'elle va avoir, c'est elle qui va les avoir. Nous, on a une somme fixe qui est retirée et on ne peut plus la toucher. Donc, Normalement, c'est favorable à la commune. Bon. Étant donné que nous sommes une commune relativement pauvre fiscalement, quand on a justement pu déduire ces charges, à un moment donné, on aurait dû se tenir à ces déductions de charges. Et ce qu'on constate en regardant un peu les dernières années, c'est que on a continué à augmenter les charges générales et on a continué à augmenter les charges de personnel. Et comme nous ne sommes pas riches, le fait d'avoir pas maîtrisé nos dépenses de fonctionnement nous entraîne aujourd'hui dans une situation compliquée. C'est-à-dire que sans la dotation de solidarité communautaire, qui n'est donc pas une obligation de versement pour l'Interco, c'est un choix qui est fait par l'Interco, notre budget n'est pas équilibré. Nos dépenses réelles annuelles sont supérieures à nos recettes réelles annuelles. Et là, ce déséquilibre-là, il faudra qu'on essaie, les prochaines années, de le réduire un maximum. Alors, je ne sais pas si on arrivera à revenir complètement en arrière, parce que ça va être compliqué. Donc, on aura besoin de l'Interco, ça c'est une évidence, hein. Mais on aura aussi besoin de chercher des économies en fonctionnement, de faire attention à nos charges de personnel, de faire attention à quand on fait un investissement, d'avoir le maximum de financement extérieur. Alors, encore une petite mauvaise nouvelle, enfin une grosse mauvaise nouvelle. Ce qu'on a aussi, c'est que aujourd'hui notre capacité d'emprunt est d'un certain niveau. Alors je ne parle pas de ratio parce que les ratios ne veulent rien dire. Ça dépend de la richesse de la commune. Nous on est pauvres, donc même si les ratios sont favorables, même si on empruntait, on ne serait pas bien. Et aujourd'hui, de toute façon, vu notre situation financière, aucune banque ne nous prêtera d'argent. Hein? Tant que tu dépenses plus que tu gagnes, personne ne te prête d'argent. Ce qui est normal, hein? Dans un ménage, c'est pareil. Hein? Voilà, donc déjà, cette ressource-là, on ne l'aura pas. Donc déjà, il faut en trouver d'autres. Voilà, donc on va continuer. Donc, pour reprendre ce qu'on a dit, Au niveau des résultats finaux, hein, donc l'excédent final en 2019 était de 961 000 euros. Donc on nous l'a dit souvent, hein, qu'on avait 1 million en caisse, c'est vrai. Et le résultat 2020, il est de 642 000 euros. Donc ça veut dire que en une année, bon, on a été élu en juillet, hein, donc bon, on n'est pas responsable, hein, de tout, hein. Donc, effectivement, il y a plus de 300 000 euros qui ont été, si vous voulez, pris sur nos excédents reportés, parce qu'effectivement, on a dépensé plus qu'on a encaissé. Donc, ça, c'est un vrai problème financier. Alors, pour 2021, donc, il va falloir que on limite la hausse des frais de personnel. On assure un service public en maîtrisant les coûts de fonctionnement un maximum. On investit pour la commune afin d'améliorer le quotidien Les Lapins Luciens, bien sûr. D'étudier la possibilité d'augmenter les produits communaux. Alors bon, je ne sais pas vraiment lesquels, mais déjà, il faudrait que la brasserie du lac, le problème que nous avons là-bas, soit réglé, qu'on puisse le louer, parce que c'est sûr que là, on perd des loyers, c'est dommage. Peut-être également mettre en location d'autres biens immobiliers de la commune, donc ça c'est des choses que nous devons étudier, hein. Et peut-être vendre un peu de biens immobiliers pour pouvoir justement financer un peu les investissements. De rechercher, bon, comme je me répète un peu, hein, le maximum d'aide institutionnelle et autres pour financer nos futurs projets. Et bien sûr, de travailler avec la CCRLP sur l'élaboration du pacte de gouvernance et du projet de territoire qui permettront de redéfinir les champs d'intervention de la Comcom et les compétences reconnues d'intérêt communautaire. Donc ce pacte sera présenté pour approbation au Conseil communautaire avant la fin de l'année 2021, donc c'est un travail qui aura lieu cette année.
Alors, pour l'année 2021, alors bien sûr, on n'en est pas encore au budget primitif, mais on a quand même quelques orientations. Donc, on a projeté des recettes de fonctionnement, réelles de fonctionnement, à hauteur de 2 449 000 euros. Alors là, on n'a vraiment mis que ce dont on est sûr. Les amortissements des subventions qui font 10 000 euros, ce n'est pas très significatif. L'excédent de fonctionnement reporté dont on a parlé tout à l'heure, qui s'élève à 497 000 euros, soit un total de recettes de fonctionnement de 2 957 000 euros. Pour les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles s'élèvent à 2 749 700 euros. On prévoit alors des dépenses imprévues à hauteur de 46 800 euros. Alors, celles-ci, on aurait aussi pu les mettre en dépenses exceptionnelles. Mais bon, on a le temps, on n'est pas encore au budget, hein, on peut encore en discuter de ça. Mais effectivement, avec la brasserie du lac, vous savez que y a des recours, enfin je veux dire par là, on peut aussi perdre. Parce qu'effectivement, il y a eu des pertes d'exploitation liées aux problèmes de fonctionnement du restaurant et à la fermeture administrative qui en a suivi. Et si on est reconnu responsable, on va peut-être devoir également payer quelque chose. Donc là, on préfère quand même prévoir quelque chose au cas où. Hein. Ensuite, les amortissements s'élèvent à 140 000 euros et... Le virement à la section d'investissement, c'est-à-dire que ça, si vous voulez, c'est la part d'autofinancement dégagée par la section de fonctionnement pour investir, s'élève à 20 500 euros. Ça veut dire que nous n'avons pas de marge d'autofinancement. Parce que ça, 20 500, ça vient. Hein. En section d'investissement, l'objectif principal est de maîtriser les dépenses de fonctionnement et générer des ressources propres supplémentaires afin de créer un excédent de fonctionnement annuel. C'est en atteignant cet objectif qu'un autofinancement des investissements pourra être réalisé sans augmenter les impôts et sans avoir recours à l'emprunt. Nous sommes accompagnés par notre premier partenaire qui est la Communauté de communes Rhône-Lès-Provence qui prend en compte le soutien financier aux petites communes d'ailleurs cette année. Donc en DSC, nous allons avoir 394 000 euros. Donc par rapport à l'an dernier, on était à 454 000 euros. Je vous rappelle qu'au départ, la Comcom disait que la DSC avait été mise en place principalement pour financer le FPIC. Donc le FPIC, c'est un fonds de péréquation intercommunale et communale que nous payons parce que les cinq communes de l'Interco et la Comcom payent ce fonds parce que nous sommes considérés comme étant une communauté riche. Alors c'est vrai que la communauté de communes est riche. Nous ne le sommes pas malheureusement. Hein. Mais vu que la Comcom est riche, eh bien, on paye. Donc nous-mêmes, on a une part communale à payer aussi. Donc cette part communale s'est élevée à 170 000 euros cette année et on a perçu en DSC 154 000 euros. Donc cette année, on a eu, si vous voulez, même pas le financement du FPIC pour la première année, je crois que c'est jamais arrivé ça. Et donc c'est un petit peu ce qui accentue notre problème financier. Pour cette année, enfin pour 2021, donc la Comcom envisage de nous verser 394 000 euros de DSC. A priori, comme l'État s'y est engagé, on ne devrait pas avoir plus de FPIC que l'année dernière, c'est-à-dire 170 000 euros. Donc, on aura un petit peu de sous. Mais comme vous avez vu la situation que nous connaissons et la non-maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, aujourd'hui, nous ne générons pas d'autofinancement malgré ces 394 000 euros. Donc, on a vraiment un gros challenge à relever ensemble pour redresser les finances communales. En ce qui concerne donc les comptes prévisionnels en investissement, vous verrez que ce n'est pas très ambitieux, hein, mais bon, 2021, ce sera vraiment une année de travail et de recherche. Alors, les subventions s'élèvent à 147 000 euros, les dotations, le fonds de compensation de la TVA et taxes d'aménagement à 245 000 euros, Le virement de la section de fonctionnement, je vous l'ai dit tout à l'heure, 20 500 euros. Les opérations d'ordre, c'est les amortissements, 140 000. Le solde des exécutions reportées, 220 000 euros. Heureusement qu'il est positif, donc ça nous fait un petit peu d'argent. Et les restes à réaliser en recettes, 118 000. Donc au total, c'est une... Toujours, hein, pour l'instant, on n'en est qu'à une prévision, on n'est pas encore en train de finaliser le budget. Mais c'est l'orientation que nous avons. On serait à 792 000 euros de budget d'investissement 2021. Pour les dépenses, alors, on va vous détailler ça après, mais les projets font 587 421, mais vous verrez là-dedans, il y a des choses qui sont déjà lancées, qui sont déjà engagées, qui sont déjà en cours. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux projets lancés. Mais ça, vous l'avez dans l'autre page. On va le regarder en détail après. Remboursement du capital des emprunts, 99 000 euros. Opération patrimoniale, c'est pareil. Là, c'est toujours les amortissements de subventions. Donc, 579 euros, c'est un détail. Et les restes réalisés en dépenses qui font 94 000 euros. Donc, on a des dépenses d'investissement à hauteur de 792 000 euros. Alors, on va peut-être rentrer dans le détail des investissements quand même. Donc le détail des investissements pour les fameux 792 000 euros. Alors bon, il y a des petites sommes, hein. La Poste pour 2 000 euros, le Columbarium pour 5 520, le panneau lumineux pour 13 956, un filtre à sable, après c'est des petites sommes, moi peut-être pas trop... La toiture de l'APM pour 23 195, on prévoit des travaux de voirie, mais parce qu'il y a des fonds de concours qui sont liés pour 150 000 euros. Travaux de sécurisation de Kerchen, là on a touché les amendes de police, donc les travaux on va les faire cette année, 42 000 euros. Il y a un achat de terrain de Vèze pour 5 000 euros. La signalisation via Rona, du mobilier informatique, mobilier pour les écoles, etc., etc. Et bien sûr, travaux à date, là on a eu dans le projet de budget de la Comcom, ils envisagent de nous financer des travaux d'accessibilité. Donc, du coup, on prévoit un crédit. Il faudra qu'on fasse le choix de savoir ce qu'on va faire là-dedans, dans cette accessibilité, parce qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore faites. Chauffage mairie. Donc, on a un gros problème à la mairie, puisque le chauffage est tombé en panne en plein hiver. Donc, c'est quand même terrible. Donc là, on est en train de faire des recherches de financement. A priori, on va en avoir. Et on prévoit 75 600 euros. Un plan de relance numérique pour les écoles pour 16 000 euros. Projet de modification du PLU pour la création d'une zone d'activité pour 5 000 euros. Aménagement d'un parking pour 31 800 euros. Et puis divers travaux pour 129 000 euros. Voilà, donc voilà les investissements. Alors, je vous ai dit que c'était modeste, hein, ça l'est vraiment. Alors, on est toujours à la recherche aujourd'hui de financement. Est-ce qu'on pourra en trouver d'autres? J'espère. Le seul truc, c'est que c'est comme pour les fonds de concours. Le problème que nous avons, nous, c'est que c'est bien d'avoir un euro de l'Interco. Mais nous, il faut qu'on mette un euro à chaque fois. Et l'euro, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on l'ait. Donc, on n'a pas de marge de manœuvre. Donc, ça va être très compliqué. En 2018, on a emprunté 750 000 euros qu'on a commencé à rembourser en 2019. Justement, c'était pour pouvoir financer les fonds de concours. Donc là, on ne pourra pas faire cet exercice-là tous les 3-4 ans, on n'est pas assez riche. Hein. Voilà. Donc il va falloir qu'on soit un petit peu plus modeste. On vous a aussi mis la liste des fonds de concours en cours. Donc c'est vrai qu'il y a sans doute là-dedans des fonds de concours sur lesquels on pourrait encore tabler. Mais il faudrait déjà qu'on ait les sous, nous, notre euro à nous, pour bénéficier de l'euro de l'Interco. Donc aujourd'hui, manifestement, on ne l'a pas. Voilà. Voilà, donc si vous voulez, on peut ouvrir le débat.
Hein. Merci, M. Gardinos, pour son déroulé très détaillé et très bien expliqué. Merci aussi à M. Androuti qui a pris part à l'élaboration de ce dogme, ainsi que les agents administratifs qui ont travaillé. Donc nous ouvrons les débats. Y a-t-il des questions, des observations?
S'il vous plaît.
Madame Amaya.
Je vous plaire, M. Piedjambi, qui levait la main, mais juste pour rebondir sur vos propos, dans page 21, je reviens pour prendre mes notes.
Oui.
Page 21, donc vous nous avez donné une information par rapport à l'incidence de l'épidémie Covid-19 sur la section de fonctionnement, avec 12 000 euros qui ont été investis. Qui ont été utilisés. Et vous avez cité à ce moment-là, lors de votre débat, à quel point vous teniez à cœur l'amélioration du bien-être des Lapalussiens. Ça me fait rebondir et ça m'envoie à la page 31 sur laquelle vous allez retrouver les compétences optionnelles de la communauté de communes et notamment au niveau de la construction et d'entretien des équipements enseignement préélémentaire, élémentaire, culturel et sportif. Et dans la liste, vous vous rendrez compte. Qu'il y a certains types de demandes auxquelles vous auriez pu répondre favorablement. Et aujourd'hui, quand les demandes ont été faites, on vous a renvoyé vers l'Interpro, sauf qu'a priori, elles dépendaient plutôt de vous. Et j'ai fait référence notamment à une demande qui a été faite par les parents d'élèves d'appareils qui permettent de mesurer le CO2 dans les classes et de mettre en sécurité nos enfants, c'est-à-dire de savoir s'il est temps d'aérer, d'évacuer ou de rester dans la classe. Aujourd'hui, si on part sur des systèmes classe R qui coûtent à peu près dans les 300 euros, on est sur une dépense qui est inférieure à 4 000 euros et qui nous incombe. Donc voilà, je me demande si dans ce budget, il ne faudrait peut-être pas y penser. Peut-être qu'on pensait que c'était compétence CCRLT, mais comme c'est des appareils nomades, ça reste notre compétence à nous. Et donc là, je profite de ce CM peut-être pour vous solliciter sur un équipement à destination des enfants vis-à-vis du Covid. Voilà, ça c'était ma première remarque. Qui n'est pas une remarque négative, hein. C'est simplement vous alerter sur un problème. Et la deuxième chose, je vais vous faire remarquer page 37, puisqu'on parle souvent de l'état de la dette à la PAVU. Voilà, vous attirez quand même l'attention que sur les lignes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ont été souscrits avant 2014 pour un montant de 2 329 051 euros, et pour lequel on a des taux qui sont effectivement assez exorbitants, puisque par contre celui qui a été souscrit en 2019 était un taux de 1,65, et vous verrez page 47, il y a effectivement sur l'investissement 99 000 euros de remboursement de capital des emprunts, dont 74 000 euros qui concernent des emprunts qui ont été souscrits avant 2014. Voilà, c'était ma dernière remarque.
Alors, donc, bon, déjà, pour votre première remarque, pour les écoles, alors effectivement, comme elles sont aujourd'hui de compétences communautaires, il faut juste qu'on fasse remonter la demande à l'Interco, et puis je pense que l'Interco pourra y réfléchir. Après, c'est sûr que maintenant que l'Interco gère les écoles pour les communes, je pense qu'elle va devoir prendre des décisions pour toutes les écoles. Donc, je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir. Donc là, effectivement, il faudra qu'on fasse remonter l'information, en tout cas la demande.
Mais sur les équipements nomades tels qu'un ordinateur ou qu'un un ciseau ou qu'un presse-papier, à partir du moment où il n'est pas accroché au mur, vous l'avez encore en compétence. Donc vous pouvez faire le choix vous-même d'acheter ces appareils de mesure et les donner à l'école. Vous n'êtes pas obligé de passer par la CCRLP, c'est juste un choix. Après, voilà, moi je vous montre que c'est un montant qui n'est pas élevé, et qui peut nous permettre peut-être de ne pas fermer une classe et de ne pas fermer peut-être l'école, parce qu'on aura correctement aéré et que, voilà. C'est simplement, je pense que vous pouvez le faire sans passer par le CCRLP.
Très bien, donc ça, je ne vais pas répondre à ça, donc du coup, je pense que c'est M. le maire qui peut répondre. Par contre, pour la partie emprunt, donc effectivement, quand j'ai vu l'état de la dette, j'ai eu la même réaction que vous. Il y a des taux qui sont un peu élevés et qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. On aurait dû les négocier. Et c'est pour ça que nous avons, dès que nous avons été élus, nous avons lancé une négociation des emprunts. Et l'analyse des banques qui a été faite, bah, écoutez, vous n'avez qu'à voir 2020, ils ont vite compris qu'on était dans une situation inextricable et qu'effectivement, ils ne pouvaient pas nous refinancer les emprunts vu la situation financière que nous connaissons. Donc ça, on y arrivera peut-être dans un an ou deux, mais pour l'instant, non.
J'en reviens à ce que disait Mme Amaya. Nous pourrons faire des devis, bien entendu. Si vous me parlez, vous me parlez de 4000 euros par classe ?
Non, non, c'est... Enfin, a priori, les appareils sont entre 300 et 150 euros. Donc, ça dépend du modèle que vous choisissez. Vous avez 15 classes. Quand vous faites la multiplication et que vous faites un achat groupé, forcément, vous ne serez pas à 300 euros par classe. Voilà. Au bas mot, c'est une dépense de 3000, 3500 euros, mais qui peut être intéressante pour les enfants du village. Donc ça vous fait un peu plus parce que vous avez 15 classes, vous avez un dortoir, vous avez une cantine, donc j'imagine que ça fait un peu plus, mais avec un groupement, c'est une dépense que la commune est capable d'assurer pour, voilà, pour le bien-être des enfants et la santé de tous.
Moi, j'avais eu des, pas des devis, mais j'avais eu des demandes, bien sûr, de société, et on n'était pas dans les mêmes tarifs, donc je vais me renseigner directement, et on vous donnera exactement le prix de, pour les écoles, et ensuite, pourquoi pas vous.
Oui, le système classe R, c'est celui qui est recommandé par l'éducation nationale, et a priori, en passant par eux, vous avez des aides. Donc voilà, juste je vous donne l'info.
Et puis pour les emprunts, bien sûr, M. Darinos vous a répondu. Au tout début, nous avons essayé de négocier, mais bien entendu, vu les finances, c'est pas évident. Monsieur Rappel, vous aviez levé la main.
Oui, merci. Ouais, tout d'abord, on aussi saluer la qualité du document qui nous a été mis à notre disposition, hein, qui sont d'une clarté limpide. Et saluer aussi M. Garinos qui, dans son propos, est moins vindicatif que n'est le document à l'écrit. Effectivement, vous avez fait le constat, sans appel, que sur l'exercice 2020, il y a un déficit de 371 000 euros. Et la cause, vous l'avez citée essentiellement, c'est les baisses de la dotation que la communauté de communes a pu mettre en œuvre après la commune. Si j'en crois le document tel que c'est écrit, j'en serais le responsable. J'ai sans doute pu contribuer à ce que la communauté de communes abonde les fonds et qu'on vide le trésor de guerre qu'il y avait la communauté de communes. Après, quelle est la qualité des échanges que la nouvelle majorité avec auprès de la communauté de communes, comme je suis écarté de toute réunion de décision, je ne sais pas comment ça se passe et pourquoi ça se passe ainsi. J'ai cru, enfin on a entendu, hein, lors du débat d'orientation budgétaire de mardi, c'est que la communauté de communes allait abonder un fonds de DSC de 2,2 millions. Moi j'ai fait des simulations sur la base des règles de calcul, je pense que c'est presque un peu plus de 450 000 qui devraient tomber en DSC. Bon, les simulations se font derrière, ça veut dire que c'est au moins 290 000 euros supplémentaires par rapport à ce qui a été versé cette année et qui devrait venir soulager. Mais, et comme vous l'avez évoqué, c'est bien sur du long terme que la discussion va se faire. La commune de la Vallue souffre du fait qu'elle ne pourra pas demain avoir des acteurs économiques qui s'installent au regard de ce qui se passe sur son territoire et notamment du risque d'inondation, etc. Et que si il n'y a pas de poids au sein de cette communauté de communes, il ne faut pas que demain, de l'argent risque de partir là où il y a aujourd'hui de l'activité économique et qu'on ne revoie pas la règle de calcul en disant on va regarder ce qui se passait en termes de TP et si c'est ça qui sert de base, bien évidemment, la commune de la Vallue perdra, perdra en plus ce qu'elle perd en assiette. Juste quelques éléments moi, qui me font quand même un petit peu réagir. Le déficit de 371 143, il est effectivement lié à essentiellement une diminution considérable de la DSC qu'a versée la commune. On voit que ce n'est pas la crise Covid qui en est à l'origine, mais on retrouve quand même des augmentations. La dépense de personnel en 2020 augmente de 25 300 euros. Est-ce qu'on avait les moyens en 2020 d'augmenter nos dépenses de personnel de 25 300 euros quand la situation est un petit peu tendue? Je vous renvoie sur le page 23, le commentaire de bas de page. il est fait état de la DSC, hein, où on est venu, je vous relis le document, une situation, donc on parle de la baisse de la DSC, une situation nullement projetée par l'ancien adjoint aux finances, je crois que c'est de moi qu'il s'agit, qui n'a rien fait pour réduire son train de vie, ce qui a conduit la commune de la Palue dans cette situation financière difficile. Juste pour réduire son train de vie.
Il n'y a pas le vôtre. Hein.
La rédaction telle qu'elle est faite laisse penser que c'est mon train de vie.
Non, c'est une coquille, ça.
Et moi, comme je crois n'importe qui d'autre, n'a pas pris le moindre euro pour faire quelques aménagements, piscine que ce soit. Voilà. Alors, s'agissant du train de vie de la commune de la Palue, chaque fois, enfin, l'aspect, c'est 1,5 million, vous savez, qui était, qu'on est allé chercher en DSC, c'est qu'est-ce qu'on en a fait ? La question, c'est, si on regarde les montants d'excédent chaque année, ils sont toujours situés à 800 000 euros. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu plus, enfin, on n'a jamais dépensé plus que ce qu'on avait en termes de recettes. Est-ce que la DSC, on aurait dû la garder pour thésauriser et faire en sorte qu'aujourd'hui, on n'ait pas 1 million d'excédents au 31 décembre 2019, mais plus. Ce n'était pas l'esprit, et l'esprit était bien de dire que cette DSC que l'on avait, c'est celle qui nous a notamment permis, tel que vous l'indiquez, M. Garinos, de mettre le 1 euro pour le 1 euro. C'est comme les impôts, malheureusement, des fois ça ne dure pas, et ça n'a pas duré. Et je vous renvoie, et vous évoquiez, M. Garinos, tout à l'heure, en disant qu'en même temps qu'on a transféré les compétences, que nos charges de personnel ont augmenté et que nos charges à caractère général ont augmenté. Je vous renvoie au tableau d'évolution. Depuis 2016, le chapitre 12 a toujours diminué. Donc, je ne dis pas ça. Et s'agissant du chapitre 11, il démontre une certaine stabilité et que si on a une augmentation en 2019 de ces charges, de ces dépenses à caractère général, c'est la contribution que l'on a apportée aux résines. Au travers d'une mutualisation et que des services nouveaux qu'on a voulu créer. Alors, c'est peut-être ça, vivre au-dessus de ses moyens, c'est ce qu'on l'on a mis en œuvre. Est-ce que, du coup, on lit la commune pour les années suivantes ? Je pense que c'était un choix politique fort que l'on avait fait de pouvoir développer à la fois les actions vers la jeunesse sous toutes ses formes. Moi, quand je compare l'excédent de fonctionnement 2013, 513 000 euros, 869 000 en fin 2019. Quand il y a 600 000 euros de DSC qui sont tombés pendant ces quelques années, on les a utilisés pour faire rouler nos dépenses de fonctionnement sans qu'elles augmentent, à part sur résine. Et là où je suis un peu... Alors, je ne reviendrai pas sur la dette, hein, qu'une bonne partie de la dette a été... souscrit sous les années précédentes, mais ça y contribue et que nous aussi, on a été embarqué pendant 6 ans à gérer cette dette-là. Vous êtes embarqué à le gérer parce qu'elle a été souscrite à un moment donné. Si là où moi je suis un petit peu interpellé dans votre projet 2021, vous évoquiez, M. Garinos, la nécessité de maîtriser les dépenses de personnel. Chapitre 12. Vous prévoyez des dépenses de personnel, alors je sais bien, c'est des dépenses d'autorisation. Mais si on veut, et que par rapport aux chiffres réalisés en 2020, vous envisagez possiblement de pouvoir augmenter vos dépenses de personnel de 95 000 euros. 7% d'augmentation, alors qu'elles ont déjà augmenté 2% en 2020. Au travers de la situation que vous décrivez, est-ce que c'est raisonnable ? Je laisse chacun en juger. De la même façon, et vous avez à juste titre dit qu'il convenait de prendre en référence, s'agissant des charges à caractère général, les dépenses 2019 plutôt que les dépenses 2020, au travers de ce que vous prévoyez sur le budget en termes d'autorisation, c'est une augmentation de 3% de ces charges à caractère général. Là aussi, hein, dans un caractère tendu, est-ce que c'est raisonnable d'aller chercher ces éléments-là ? Et est-ce que, au regard des 20 500 euros qui se retrouvaient limités à venir abonder le virement à la section d'investissement, on n'aurait pas pu imaginer que ces 95 000 d'augmentation du budget personnel et les 25 000 ou 30 000 augmentation du budget des charges n'auraient pas pu venir alimenter la section d'investissement Je vous renvoie au programme que vous aviez pu dérouler, hein, à travers de belles promesses. Pour moi, aujourd'hui, c'est ce terme-là que vous employez, des belles promesses. Hein. Résidence pour les seniors, maison des associations, médiathèque, salle d'activité intergénérationnelle. Si on en reste sur ce volet-là, et si vous n'alimentez pas plus que ces 20 500 euros, tous ces projets, je crois, se retrouvent réduits à néant. Et pour conclure, pour le cœur, vous êtes votre texte est plus dur que ce que les propos ont pu tenir M. Garinos. Juste pour rappeler quelques éléments du budget tel qu'on a pu s'y tenir. Il n'y avait pas eu d'augmentation des impôts locaux pendant ces 6 ans. On a eu un volume d'excédent d'investissement qui est sans précédent, 2 fois plus que ce qui se fera en 2021. 1 million d'excédent, pas tout à fait 1 million, 960 000 euros d'excédent fin 2019. Des transferts de compétences qui, aujourd'hui, je crois, ne sont pas remis en cause, tel que j'ai pu la lecture de la dernière séance du Conseil communautaire où d'autres communes ont pu envisager de faire marche arrière. Je crois que ce n'est pas la situation de la PALU. Et vous l'avez souligné, c'est qu'on a réussi à faire des transferts de compétences en faisant en sorte que les dépenses d'investissement ne soient pas prises en compte dans le calcul de l'AC, ce qui veut dire que demain, tous les gros travaux, c'est bien la communauté de communes qui les prendra à sa charge sans impacter les finances de la commune. Je crois que pendant la campagne, tout le monde voulait se faire le bilan. Sept élus qui sont aujourd'hui dans la majorité, et pas des moindres, qui étaient dans notre équipe, voulaient aussi s'approprier le bilan. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, plus personne ne veut s'approprier ce bilan. Vous dire donc, moi, en synthèse, je partage avec vous la situation délicate. S'agissant de l'augmentation de DSC des en gros 240 000, si je maintiens à votre évolution de 395 000 euros, c'est 240 000 euros de DSC supplémentaires. Je ne sais pas où ils passent dans votre projet de budget. Ils ne sont pas passés en investissement, je ne sais pas où ils passent dans votre.
Vous n'avez pas bien regardé.
J'en ai vu passer en augmentation de personnel, j'en ai vu passer un peu d'augmentation de charges, mais. Je ne sais pas où sont passés ces 240 000 de DSC supplémentaires. On peut crier au loup quand la DSC est là, crier au loup quand elle n'est plus là, il y en aura un peu plus. Où elle passe, je ne sais pas. Merci.
Alors, je vais essayer de vous répondre. Hein. Alors, déjà, pour les frais de personnel de 2020, je vous rappelle quand même que 2020, vous avez embauché le personnel, bien entendu, avant qu'on arrive. Le problème de la DGS n'était pas réglé, on a dû donc payer ce qu'il fallait payer au 31-12-2020, donc ça aujourd'hui c'est réglé, on ne le payera plus. Par contre, effectivement, le chapitre 011 et le chapitre 012 dérapent depuis plusieurs années, pas seulement depuis 2020, ils dérapent depuis 2018-2019, et effectivement vous cherchez la différence de 240 000 euros de DSC, ben, le problème c'est que si vous n'aviez pas eu les 600 000 euros en 2017, 2018 et 2019, vous vous seriez aperçu qu'effectivement, vous n'aviez pas assez de recettes par rapport aux dépenses que vous aviez générées. On a trop dépensé en fonctionnement. Et les 240 000, ils essaient de juguler le déficit de fonctionnement. Aujourd'hui, ils sont là-dedans. C'est pour ça qu'on n'a pas d'argent pour l'investissement. Vous ne vous êtes pas rendu compte qu'à un moment donné, votre DSC a couvert votre budget de fonctionnement. Alors, vous avez sans doute offert des services supplémentaires au Lapalucien, c'est bien, mais sans en évaluer les coûts. Et le problème c'est qu'on a aujourd'hui, c'est celui-là. À un moment donné, on a continué à dépenser alors que les recettes, on n'en avait pas plus. Grâce à la DSC, on pouvait un petit peu faire illusion. Dès que la DSC n'est plus là, on ne fait plus illusion. On est en déficit. Voilà. Le problème, il est là. C'est comptable. Hein? Exclusivement comptable.
Oui, juste une dernière intervention, parce que je ne vois la parole à 32 fois. Juste pour...
Vous avez, on est démocratique, vous avez déjà dépassé largement, mais en fait, c'est pas grave. Allez-y.
Non, mais je crois que dans le règlement intérieur, il n'y a pas question de temps, mais qu'on
va prendre la parole. Si, 16 mais c'est pas grave.
Très bien, écoutez, je vais faire très court. Je vous donne les charges à caractère général en 2012, 623 000. Charges à caractère général en 2018, 675 000. Effectivement, on a créé des services nouveaux et multiples. 2019, je vous le concède, on vient rajouter 60 000 euros et je vous ai expliqué, c'était raison. Je le redis, s'agissant des charges de personnel, donne un peu l'évolution, 1 600 000 en 2016, 1 492 000 en 2017, 1 296 000 en 2018, 1 272 000 en 2019. Chaque fois qu'il y a eu des transferts de compétences, on a baissé la masse salariale. Je n'arrive pas à comprendre où est-ce que vous voyez qu'on augmente nos charges de personnel pendant qu'on a transféré ces compétences.
Donc on a fait le calcul, on ne l'a pas mis dans le DOB, mais on a fait le calcul, on en parlera au CA.
Bien, merci beaucoup. Moi, je tenais juste à rajouter que le gros problème, c'est, comme disait M. Garinos, déjà par rapport à cette fameuse DSI. Et je tiens à remercier M. Anthony Zidou, président de la CCRLP, qui a voulu me recevoir. Je lui ai exposé les problèmes qu'on avait sur la commune par rapport à nos finances, et qui a très bien entendu, et qui a bien voulu me donner cette somme de 394 000 euros. Pour faire un bien pour nos deniers, parce que en 2022, je ne sais pas comment on aurait pu boucler notre budget. Voilà. Ensuite, vous dire que monsieur Dravel, voilà, vous avez parlé 18 minutes, donc c'est pas grave, en fait, on sait que vous aimez beaucoup parler, donc c'est pas un problème. Mais la critique est facile, monsieur Dravel. Par contre, j'ai juste une aparté, puisqu'on parle finance, et j'ai vu que sur le réseau Facebook, vous en donnez à cœur joie, mais c'est pas grave, je suis habitué, qu'on me traite de débile ou d'imbécile, de dame, de ce que vous voulez, c'est pas grave, quoi qu'il en soit. Mais juste faire une aparté pour vous montrer que les finances, par rapport, donc j'ai des factures, hein, bien sûr. Par rapport à ce que vous avez mis sur comme quoi nous ne faisons pas travailler les territoires sur le bulletin municipal. Mmh. Alors, en 2019, vous avez fait travailler une société de Bolène, bien entendu, mais une société aussi de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Saint-Paul-Trois-Châteaux, je suis désolé, c'est pas trop sur le territoire de la CCRLP. C'est pas grave. Pour une somme de 5 653 euros pour deux BM, je vous parle que des bulletins municipaux, donc de 16 pages. Nous, cette année, bien sûr, et l'année dernière, nous avons fait travailler une société, bien sûr, à Pombes. On ne s'en cache pas, c'est clair. Cette société de Pombes, c'est à 7 km, c'est un peu comme à Saint-Paul-Trois-Châteaux, ouais, c'est pas en Chine. On fait travailler des Français et des gens de la région. À côté, dans la région voisine, c'est des gens de la région. Qui nous a coûté 4 752 euros, pareil, pour 2 BM avec 16 pages. Sachant qu'en 2022, il n'y aura plus que l'impression à payer. C'est-à-dire que ça vous coûtera 3 792 euros pour 2 BM. Si on calcule sur 6 ans, nous ferons une économie de 10 000 euros. Enfin, ce n'est pas négligeable vu nos finances par rapport au vote. J'ai les papiers, si vous voulez, je vous le remettrai après. Monsieur Martin, ce n'est pas un problème. Ensuite, vous nous parlez aussi sur les dépenses d'investissement. Juste pour vous rappeler que la toiture de l'APM, j'avais vu des devis. Au début, qu'on est rentré vers 36 ou 37 000 euros. On est tombé à 23 195 euros. Pareil pour la toiture du presbytère, j'avais vu 20 000 euros. On est à 3 000 euros de réparation. Voilà. On essaye de faire des petites économies, soit, mais on essaye de faire des économies. Alors, c'est pas critique sur les travaux qui ont été effectués sur le mandat, loin de là. Il y avait des travaux à faire, il y en avait d'autres, peut-être à enlever. Quoi qu'il en soit, on a voté, étant donné qu'il y en avait 7 de la majorité de 2014 à 2020. Mais il faut se dire juste un truc, c'est que, comme les anciens parlaient, il aurait fallu peut-être garder un baptême et essayer d'avoir un fonctionnement autre à la fin. C'est tout. Et on n'est jamais allé contre votre sens, M. Gratin, parce qu'on vous faisait confiance comme vous m'avez fait confiance dans la délégation, et vous n'avez jamais mis le nez dedans, et j'ai jamais mis le nez dans les finances, tout simplement. C'est juste ça qu'on me reproche. Pas les travaux qu'on effectué. Quand j'entends monsieur le président de la CCRLP qui parle de 42 millions et demi d'euros sur l'investissement, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est des travaux qui, d'ailleurs, les écoles à Bolène, ils en avaient largement besoin parce qu'elles étaient vraiment dans un état pitoyable. Le seul truc qu'on dit, c'est par rapport, je vous dis, par rapport à votre façon de mener les finances, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de plus, hein, c'est pas bref. Mais à un moment ou à un autre, vous auriez dû savoir et essayer de gérer par rapport à votre DSC, en se disant, si on n'a pas de DSC, comment nous allons pouvoir fonctionner, tout simplement. Et en se disant, si on pouvait enlever cette DSC, est-ce qu'on pourra fonctionner? C'est tout. Alors c'est sûr que pour le risque, pour le centre aéré, c'est très bien. Mais à un moment ou à un autre, peut-être qu'il aurait fallu mettre des points sur les i. Ensuite, par rapport à ce que vous dites, nous on avait promis, je crois, il y avait 90 promesses. Vous en avez fait 120. Donc je ne sais pas, je ne sais pas si on arrivera à les faire, mais vous, 120, je ne sais pas comment vous auriez pu faire par rapport à nos finances, monsieur Rappel. Ensuite, les citoyens n'ont pas eu sont prêts à comprendre qu'il vaut mieux décaler les dépenses dès lors qu'on n'a pas le sou, tout simplement. Il vaut mieux réduire les volumes de projets plutôt que de s'endetter ou de se mettre dans le rouge. Tout simplement. Les renégociations que parlait tout à l'heure M. Garrigos seront un manque, nous aussi, pour ça. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire pour finir ce débat. Je vous remercie d'avoir débattu là-dessus. Je passe à la quatrième délibération. Approbation des modifications du règlement intérieur du conseil municipal. Le rapporteur de l'aide, Mme Petit-Comité-Soto. Je laisse la parole à Mme Annie Souveto.
Merci, Monsieur le maire. Alors, le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet des modifications et des ajouts apportés au règlement intérieur du conseil municipal. Vu la loi d'orientation numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale de la République qui a prévu l'obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants de se doter d'un règlement intérieur qui doit être adopté dans les 6 mois qui suivent son installation. Article L2121-8 du CGCT. Considérant que le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal, qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aussi ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. Vu la délibération numéro 74-2020 du conseil municipal en date du 18 décembre 2020 adoptant le règlement intérieur, le conseil municipal sera invité à délibérer sur le nouveau projet de règlement intérieur avec les modifications suivantes. Article 4. Accès au dossier. Information des conseillers municipaux. C'est en page 3. Article 8. Pouvoir, mandat. Page 4. Article 13. Déroulement de la séance. En page 6. Article 19. Procès-verbaux. En page 8. Dans le cadre du droit d'expression de la minorité, il sera aussi proposé d'ajouter les deux articles suivants. Article 21, expression sur le site internet de la commune, page 9. Article 22, l'expression sur Facebook, page 9. Information, un compte Facebook officiel à la qualité de publication d'information générale au sens des dispositions de l'article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales. C'est la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 26-06-2018, numéro 16-LY04-102. Bon, vous avez tous lu le projet du règlement intérieur.
Est-ce des questions ou des observations? D'abord,
alors, Madame Contessoto n'est pas là, mais elle aura peut-être l'occasion d'écouter la barre, et je tiens à la remercier de nous avoir reçus le 12 février avec M. Andréotti. C'est la première fois qu'on est reçus pour enfin discuter et travailler ensemble, donc ça fait plaisir, surtout avec quelqu'un qui était ouvert et qui a pu vraiment
vraiment échangé avec nous de façon constructive, donc comme quoi tout est possible. Quand en face on met du sien, nous aussi on met du nôtre. Et ça s'est très bien passé, la preuve en est qu'on est arrivé à tomber d'accord sur un règlement intérieur, que nous allons donc voter. Par contre, je veux juste profiter qu'on parle de communication pour revenir une minute sur le petit lapin Lucien. Un jour, il y a eu une petite blague sur le Facebook perso de Jean-Louis Grappin à propos d'un bouc émissaire. Et ici, en séance, la leçon nous a été faite qu'il ne fallait jamais citer de nom, puisque ça pouvait blesser les familles, les entourages. Voilà. Donc moi, j'ai été quand même un peu abasourdie quand j'ai vu les noms de mes anciens colistiers apparaître de façon aussi péjorative, pour reprendre qu'ils n'étaient pas là pour servir les Lapalussiens, que Guy Soulavie a été des hommes et des femmes qui avaient pour amour la commune, qui avaient l'engagement à la proximité du bien commun comme mot d'ordre, et qu'a priori, ils n'avaient pas tenu leur engagement. Alors quand j'entends Antoine Di Maggio, qui est fervent défenseur du nom du sang, Patricia Blanquier, qui est... Parce que bon, il y a la liste de Schindler, il faut faire la liste d'Amaya. Hein. Antoine Di Maggio, donc je viens de le citer. Il y a Patricia Blanquier, infirmière libérale, Laurence Faure, Jean-Jacques Perrault, président des sous-écoles avec Amandine, Jean-Louis Richier, qui a plus de preuves à faire, sa femme est partie pour le Covid, et lui a aussi été un gros acteur, Fabrice Georges, qui est sur le territoire, qui est à Avon, Jean-Louis Chabanis, qui œuvre avec son association, et Alexandra Dana, qui est elle-même parent d'élève. Quand on me dit et quand on écrit que ces gens-là n'aiment pas leur village, à quelque part, ça me dérange. Et en tant que tête de liste, puisqu'aujourd'hui Guy Soulavie, vous le savez, a démissionné, c'était son droit, je pense qu'il a assez donné pour la commune, on est encore en train de dire que Guy Soulavie est un méchant, et qu'il faut encore parler de Guy Soulavie, il faut encore faire exister Guy Soulavie. Alors je ne sais pas ce que vous attendez, que Guy Soulavie déménage, qu'il n'ait plus le droit d'être dans le village, qu'il est... Voilà, peut-être que Guy Soulavie, on peut le laisser tranquille, il a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, il a fait le choix de partir. Il nous a laissé la place. On est une équipe de 29. On est 5 à remplir les sièges. Aujourd'hui, les sièges ne sont pas vides. Donc, Agir fait ce qu'il a dit et représente ses électeurs. Voilà, ça c'était juste pour qu'on puisse couper une dernière fois sur ce sujet et qu'on arrête un peu ces choses-là. Quant à l'épicerie du coin, ils faisaient des listes sur les gens qui venaient ou pas acheter leurs courses. Tout le monde trouvait ça inadmissible. Et finalement, on fait pareil. Donc, je sais pas. Mais je vous remercie quand même Sophie, Francis Auto, pour le travail qu'elle a pu faire auprès de nous.
Bien soit, c'est la réalité, Madame Onaya, je suis désolé de vous dire ça, c'est que ces personnes-là ne sont pas restées, vous êtes restées, donc, même si vous faites partie de l'opposition, il n'y a strictement rien à dire là-dessus, puisque vous êtes une opposition, vous avez le droit de vous exprimer, et je suis très content que vous appréciez la rencontre avec Madame Conte-Soto et M. Andréotti. Le truc, c'est que quand je vois les attaques de M. Soulavie sur Facebook, qui s'en donne à cœur joie, et d'autres policiers, même ceux qui sont dans l'opposition, qui sont à cette table-là, on ne peut que répondre par la vérité, même s'ils ont travaillé, ils ont œuvré pour le bien du village, soit pendant des années, ils ont fait le bien sur le village, laissez-moi finir s'il vous plaît, ils ont fait le bien sur le village, soit, mais quand on entend et quand on voit ce qui est écrit, M. Soulavie, comme quoi, il était là pour aider les Lapalussiens et qu'il n'est même pas venu à l'intronisation le 4 juillet pour l'élection du nouveau maire, je me demande vraiment s'il était là pour le bien des Lapalussiens, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a rétorqué ça. C'est pareil, je pourrais vous critiquer là aussi en disant que nous n'avons rien fait par rapport au début du mandat, quand vous écrivez que nous faisons rien. Déjà, il faudra avoir les finances pour. Et le jour où on aura les finances pour, nous ferons ce qu'il faut. Et pour l'instant, voilà, nous essayons de trouver des solutions. Madame Amaya.
Mon propos porte sur le fait de citer des noms et de dire, et vous venez encore de le redire, que c'est une vérité. Ce n'est pas une vérité de dire que ces gens-là ne s'investissent pas pour le village. Ils sont toujours actifs pour le village. Et comme je l'ai déjà dit, je le redis, quand Jean-Louis Grappin parle à titre personnel et parle à titre personnel, Guy Soulavie a démissionné, il ne fait plus partie de l'équipe Agir aujourd'hui, il parle à titre personnel, comme d'autres administrés parlent sur les réseaux. Pour autant, ce n'est pas l'équipe Agir Ensemble pour la Palue qui parle. Et nous, nous ne mettons pas de nom. Effectivement, nous avons donné notre avis sur la petite, petite encart qui nous est proposée, mais vous verrez qu'il y a plus de propositions que d'invectives.
Ok. Bien sûr, on ne va pas faire un débat là-dessus. Oui.
Je ne suis pas là pour faire du polémique ou quoi que ce soit. Sachez combien coûte à ce jour les réseaux sociaux, Facebook. On a encore eu hier soir. Vous avez vu des enfants de 15 ans qui se suicident ou qui tuent. Moi, je pense que. Moi, j'y suis sur Facebook. Mais je ne fais pas de commentaires.
Moi non.
Je laisse. À la manière, j'ai vu passer les choses. Mais
vous, alors vous n'avez rien vu avec mon compte Facebook ni avec celui d'Agir Ensemble pour la PALU, puisque c'est moi qui mène les publications. Je peux vous dire que je n'écris rien avec mes comptes Facebook. Et on est tombé d'accord avec Madame Contessoto.
Vous mettez sur le compte à monsieur.
C'est leur titre personnel, c'est leur liberté personnelle, ils agissent à titre personnel.
Je vous dis juste, vous avez vu ce que ça coûte les réseaux sociaux à ce jour.
Oui, bien sûr.
Arrêtons. Parce que sachez qu'il y a des gens sur la commune de la PALU ne comprennent pas et ça commence à devenir un manège.
Mais ça, c'est pas plus joli.
Non, mais, madame.
Non, mais qu'on soit d'accord,
madame,
c'est pas plus joli.
Madame, je ne parle pas de ceci, madame. Je vous parle des réseaux sociaux.
Oui, mais moi, je vous dis qu'il y a quand même des enfants, il y a des enfants élus qui ont lu ça, c'est pas plus joli.
Voilà. Madame, les réseaux sociaux, vous avez vu où ça emmène à ce jour.
Oui.
Il y a des enfants qui perdent la vie. On est des adultes. Arrêtons.
Si je suis plaît. D'accord avec vous, mais vous croyez que les enfants qui lisent avant et Alexandre Adana, quand ils lisent ça, ils sont bien. Donc ne me faites pas la morale sur quelque chose.
Je ne vous fais pas la morale, madame.
Les réseaux sociaux, c'est 50% peut-être du village. Ah, ça, c'est toutes les boîtes aux lettres. C'est tout le monde.
Vous verrez ce soir au journal de lecture qu'est-ce qui se passe encore.
Oui, ben, je vous dis simplement que ça, c'est toutes les boîtes aux lettres. Donc tous les enfants l'ont vu. Et il y a des noms. C'est pas grave, on n'est pas d'accord. Hein.
Moi, ça me fait mal, vous savez pourquoi? Parce que j'étais président d'une association, et quand je vois des trucs comme ça, qu'il y a des enfants, ça me fait mal.
Ah ben, vous avez tout à fait raison, voilà. Et je suis bien d'accord avec vous.
Le propos, c'est qu'on est des adultes.
Je suis bien d'accord avec vous.
Et on en voit, c'est pas beau.
Ah ben, je suis bien d'accord avec vous.
Mais
et vous pouvez regarder mon compte Facebook, il n'y a pas de problème, vous verrez qu'il n'y a rien.
On va pas polémiquer toute la soirée sur le quoi qu'il en soit, voilà. Il faut savoir que nous rentrons, hélas, nous sommes des femmes et des hommes politiques, et quand on rentre là-dedans, on sait qu'il y a des attaques, mais il y a certaines attaques qui devraient être autres. Je passe au vote. Y a-t-il qui s'abstient? Monsieur Grappin, qui est contre?
Oui, je vais vous expliquer pourquoi je m'abstiens. Effectivement, vous avez fait droit à toutes mes observations et notamment le fait qu'il faille venir permettre à l'opposition de s'exprimer sur Facebook. Ce n'est pas un cadeau que vous avez fait. Vous l'avez rappelé, c'est la réglementation qui le veut. On aurait pu le faire la dernière fois, on aurait gagné une étape. Là où j'ai un petit peu de mal, c'est que on nous donne le droit de s'exprimer sur Facebook, mais vous avez lu le document tel qu'il est fait, on ne peut pas mettre de photos, on ne peut pas mettre des noticodes, c'est-à-dire qu'on utilise Facebook sans pouvoir utiliser les codes Facebook. Voilà. C'est-à-dire que la majorité et la minorité n'auront pas le droit de s'exprimer de la même façon. Non, mais vous avez le droit de mettre, vous avez le droit de mettre des images, des émoticônes autant que vous le voudrez, et nous, on n'a pas le droit de mettre des images ni des émoticônes. Donc on fait de l'enfantillage là. Là, on fait de l'enfantillage.
Je
fais de l'enfantillage.
Vous êtes habitué, donc c'est pas le problème. Allez, donc qui s'abstient? Donc, monsieur Grappin, vote à la majorité, je vous remercie. Cinquième question, ralliement à la procédure de renégociation du contrat d'assurance statutaire du centre de gestion de la fonction publique territoire de Vaucluse. Donc c'est moi qui vais la présenter puisque M. Duc n'est pas là. Alors, donc, notre contrat d'assurance contre les risques statutaires avec SOFA 6, conclu pour une durée de 4 ans, arrive à terme le 31 décembre 2021. L'assurance statutaire concerne l'assurance des agents titulaires et non titulaires, maladies ordinaires, longues maladies, maladies professionnelles et accidents du travail. Le CDG organise une procédure de mise en concurrence à laquelle nous nous rallions avec la liberté par la suite d'y souscrire ou non selon les résultats. Cela nous permet d'éviter de reconduire notre propre consultation d'assurance tout en bénéficiant du poids dans la négociation que permet le contrat groupe. Pour info, le montant de la cotisation annuelle inscrite au budget est de 45 000 euros. L'assurance rembourse près de 50 000 euros. Nous avons fait exactement la même procédure il y a 4 ans. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Sixième délibération, création d'un service public de défense extérieure contre l'incendie. La 2ECI. Monsieur Stéphane Morel.
Il peut réaliser d'office ces contrôles auprès du propriétaire ou de l'exploitant. Le service public de DECI assure la gestion matérielle de la DECI. Il porte principalement sur la création, la maintenance ou l'entretien, la position de signalisation, le remplacement et l'organisation des contrôles techniques, des PEI et l'échange d'informations avec les autres services. Le service public de DECI est une compétence de la commune, article R2225-2. Il est écrit à l'article R2225-7. Il peut être organisé en régie propre ou par délégation de service public. Il est rappelé que les PEI à prendre en charge par le service public de DECI ne sont pas que ceux connectés au réseau d'eau potable. Les PEI peuvent être raccordés à d'autres réseaux sous pression ou être des points d'eau naturels ou artificiels. La collectivité compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer toute ou partie de ses missions. Création des PEI, opération de maintenance, contrôle, par le biais d'une prestation de service, conformément au code de la commande publique. Il sera demandé au conseil municipal, conformément à la réglementation en vigueur, de créer le service public de défense extérieure contre l'incendie, d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents afférents à cette décision. Vous avez dans l'annexe numéro 5 qui vous a été communiqué tous les PEI qui sont sur la commune de la Palue et derrière et dessous la dérogation qui dénomine ces points.
Merci, M. Monroy. Y a-t-il des questions ?
Oui, juste, vous l'avez évoqué, M. Morel, en disant que au travers de ce service-là, donc la commune, sauf à ce que ce soit un transfert de compétences à l'Interco, la première question, c'est quid du transfert à l'Interco, et je crains que non.
C'est possible, mais c'est pas la question.
Hein? Non, mais c'est, enfin, demain, c'est bien qui devient gestionnaire de ces services-là au travers des coûts de responsabilité et, vous l'évoquez en disant que c'est soit en régie, soit au travers d'une délégation de service public. Ma question est, il n'y a pas que les 2-3 agents hein, qui vont venir saisir dans le logiciel, il y a aussi tout le service de contrôle de ces poteaux, etc. Est-ce que du coup, c'est au travers de notre contrat avec la SOR, enfin voilà, c'était juste avoir cette précision-là, quid derrière de cette prestation de contrôle, puisque du coup, au travers de la création de ce service, on imagine que la responsabilité du maire se retrouve à creux.
Je peux me permettre,
oui.
Pour rejoindre ce que tu dis, parce que l'autre jour, j'ai vu justement que certains étaient en train d'intervenir sur la bouche d'incendie à cause de Montélimar. Est-ce que c'était en rapport avec ça?
Alors, je vais dire, il y a plusieurs points qui me demandent M. Drapé. À l'heure actuelle, je crois que la compétence n'est pas prévue d'être transférée sur l'Interpol, donc ça va rester une compétence communale. Bien entendu, la création de ce service et la formation des 3 personnes va uniquement servir à renseigner administrativement le renseignement ça va remplacer le tableau que je vous ai remis, ça sera directement sur le site gratuit. À côté de ça, nous avons relancé une consultation pour mettre en place le schéma d'aménagement de ces PEI. Et nous mettons bien sûr, par le biais de notre prestataire à la SOR, le contrôle de ces réseaux-là. Bien sûr, c'était diffus, puisqu'il y avait plusieurs intervenants, ça va être on rassemblé sous cette appellation-là, et on va avoir un contrôle qui va être fait en 2 ans. La seule chose qu'il y a, c'est qu'avant, il y avait un an, c'était les pompiers, un an, c'était la SOR, maintenant, ce sera tous les ans la SOR, les pompiers, le couple. Et nous devons renseigner au fur et à mesure. Pour votre information aussi, nous avons fait parvenir au RAO un courrier demandant justement à notre prestataire du réseau de groupe de vérifier certains points. Il y a quelques points qui sont un peu limites en débit et en réseau et qui ne sont pas des réseaux matériels. Donc nous avons remplacé une forme qui était défaillante. Donc tout ce qui est matériel, ça incombe à la mairie en train de nous en occuper. Nous avons, voilà, vous pouvez voir si nous avons fait partir le courrier, mais vous voyez que je passe, nous n'avons pas eu de réponse encore à ce courrier, pour qu'il vérifie justement les débits d'eau sortant à ces droits. Voilà.
C'est ce qui a été fait. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote, qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Ah, merci, bien sûr. Cette délibération demande une subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, exercice 2021, rénovation énergétique du chauffage bâtiment mairie, mise en place d'une pompe à chaleur. Alors, la pompe à chaleur est donc une demande de subvention au titre de la DSIL 2021 a été faite suite à une panne du chauffage de la mairie. Il s'avère que cette fameuse chaudière est HS. Donc une pompe à chaleur sera mise en place ultérieurement. C'est un système qui est moins énergivore, bien entendu. Donc si notre dossier est retenu, celui-ci peut atteindre 80% d'aide financière. Il vous est donc demandé d'approuver la demande de subvention pour cette fameuse pompe à chaleur, sachant que si nous avons ce fameux taux de 80%, il y aurait donc une subvention de 50 394,40 € hors taxes. Il y aurait donc un autofinancement de 12 598,60 € pour un coût total de l'opération de 62 993 € hors taxes. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Votre unanimité, je vous remercie. Huitième délibération et possession, amiable de déboirie, espace vert de lotissement, le parc des cigales de la commune. Monsieur Gérard Miséréré.
Merci, monsieur le maire. Donc, le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de la rétrocession amiable des boiseries et espace vert du lotissement, le parc des cigales à la Palue. Donc, vu la demande de rétrocession de la voirie et des espaces verts formulée par l'association syndicale du lotissement Le Parc des Cigales, qui est représentée par son président, M. Pompé-Daline, et d'accord joint de l'ensemble des propriétaires, et vu l'état satisfaisant de la voirie, des travaux réalisés sur les espaces verts, enfin, je crois qu'ils ont fini hier soir, et vous avez pu constater qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, et bien évidemment, c'était pris en charge par le lotissement. Donc c'était rétrocédé et classé dans le domaine public communal. Il sera proposé au conseil municipal d'engager la procédure de rétrocession de la voirie VRD et espace vert du lotissement de Paul des Cigales, portant classement dans le domaine public de la commune selon les caractéristiques suivantes. La voirie et les espaces verts de ce lotissement sont cadastrés section E, parcelle 1584-6, route de Saint-Paul à la Palue, avec une superficie d'un hectare, 72 arts et 50 centiaires. La cession à la commune des parties communes du lotissement leur appartement se fera à l'euro symbolique. Monsieur le maire sera autorisé à entamer la procédure pour le placement dans la voirie communale, notamment assigné pour le compte et au nom de la commune. Dans l'acte notarié et après constatation de la réalisation des conditions requises, l'acte authentique de vente de ce terrain à intervenir et accomplir l'ensemble des formalités hypothécaires et administratives subséquentes. Les crédits nécessaires à la présente opération seront inscrits au budget de la collectivité et les frais relatifs à l'acte notarié selon à la charge des propriétaires cédateurs. Voilà.
Y a-t-il des questions? Aucune question.
Merci. Je prends pas le vote. J'y habite, je ne prends pas part au vote.
Vous ne prenez pas part au vote. Monsieur Bouc, pareil, ne prendra pas part au vote.
Non plus.
Monsieur Lambertin, non plus. Donc, quatre personnes qui habitent dans le lotissement, qui parlent des cigales, ne prendront pas part au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Neuvième délibération, autorisation donnée à monsieur le maire de signer une promesse unilatérale d'achat pour substitution à la SAFER dans le cadre de la vente de parcelles 6 les deux baisses. Monsieur Lambertin.
Monsieur le maire, chers collègues, d'abord cette délibération, oui, suite au remembrement, un certain nombre de parcelles donc, ont été récupérées par la SAFER et la SAFER donc a fait des propositions pour savoir si on était éventuellement intéressé. Donc il y a une parcelle qui est située à l'ouest du lac des Deux-Vesses une parcelle d'un hectare 6 arts 39 centiards, donc qui pourrait, elle est attenante donc au lac, et c'est un espace qui est boisé, il y a un chemin, il y a un talus, c'est entre le TGV et le lac. Donc, vu le prix qui a été proposé, donc, la commune se propose d'acquérir donc, cette parcelle à la SAFER. Pour, donc, je vous dis, il y a un hectare 0,6 39 centiards, mais en réalité, il y a quatre parcelles. L'acquisition de ces terrains libres de toute occupation est intéressante du fait de sa proximité avec le lac. La SAFER est bénéficiaire d'une promesse de vente consentie par les consorts Cesil. Le délai de validité de la dite promesse est fixé au 31 mars 2021. En application des dispositions du Code rural, la SAFER a la possibilité de substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de toute ou partie des droits conférés par cette promesse de vente. En l'espèce, la cession portera sur les parcelles cadastrées, donc susvisées. Il sera proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser le maire à signer la promesse unilatérale d'achat au prix de 3 600 euros, auquel s'ajoute le montant des prestations de services dues à la SAFER d'un montant en taxe de 420 euros et la TVA en sus évaluée à 84 euros, ainsi que l'acte notarié de leur maître d'air Pascal, notaire à Bolène, précisant que les crédits seront inscrits au budget de la collectivité. Alors, certaines conditions particulières devront être indiquées dans l'acte notarié à venir. Cahier des charges rurales. Le promettant s'engage à conserver la vocation du bien vendu pendant une durée de 10 ans à compter de l'acte de vente. Pacte de préférence. Ensuite, en cas d'aliénation à titre onéreux du bien objet des présentes, la SAFER bénéficiera d'un droit de préférence pendant la durée du cahier des charges, indépendant de son droit de préemption aux conditions de vente projetées. Voilà.
Merci, M. Lambert. Y a-t-il des questions ?
Moi, j'ai une question.
Madame Mamaya.
Apparemment, on ne vous entend pas. Par rapport au plan que vous nous avez donné, je me demande, est-ce que c'est les parcelles qui ont été, il n'y a pas si longtemps, nettoyées ?
Oui, à l'est, oui, avec l'accord de la SAFER.
Et les frais ont été portés par qui ?
Par personne actuellement, puisque c'est une association d'insertion qui avait un chantier et qui voulait occuper les gens.
D'accord, merci.
Y a-t-il d'autres questions ?
Moi, juste une observation, et peut-être une inquiétude ou de la paranoïa, vous le prendrez comme vous voulez de ma part, mais je crains que la formulation, le promettant, c'est-à-dire que la commune s'engage à conserver la vocation du bien vendu, est-ce qu'à terme, elle ne nous interdirait pas de procéder à des aménagements sur ce terrain ? Auquel cas, je ne comprendrais pas la nécessité de l'achat. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit garder cet aspect-là ? Puisque j'imagine que si on l'achète, c'est pour pouvoir le transformer ou le faire évoluer. Et que si on doit conserver. Enfin, je ne sais pas ce que signifie cette disposition, conserver la vocation du bien vendu.
C'est de ne pas modifier la nature du terrain, c'est-à-dire ne pas faire de ce terrain une zone d'activité, par exemple. Mais le terrain aménagé en l'état, c'est un espace vert qui est attenant au lac et qu'on essaiera d'aménager un espace vert. Voilà, c'est tout. Hein.
Je pense qu'on pourrait faire sauter cette.
Puisqu'on prévoit d'aménager un petit peu ce lac. Et de réglementer un peu son accès et tout, donc dans le courant de l'année, de façon assez modique, mais de façon quand même où on pourra maîtriser l'accès donc aux alentours. Hein, voilà, donc ça et sur des chemins qui sont situés au nord, donc il y a tout un programme actuellement en préparation là-dessus. Voilà.
Juste une dernière question, parce que je ne maîtrise pas du tout. Aujourd'hui, le lac des Dévesses, c'est une gestion totalement communale du plan d'eau ?
Absolument.
Oui. Donc aujourd'hui, une association qui voudrait se montrer pour agir sur ce lac, elle a bien comme interlocuteur la mairie ?
C'est la commune.
D'accord. Donc, parce que comme j'avais été sollicitée par une personne qui avait un projet, et a priori, en réponse, avait eu que ce n'était pas la commune qui gérait ce lac.
Si, si.
Je pense qu'elle nous écoute ce soir et qu'elle sera contente d'apprendre que c'est vous l'interlocuteur.
Voilà, c'est la commune qui s'occupe de ça.
Nous sommes ouverts à tout projet sur cela, tout simplement. Et deuxièmement, sans être médisant, beaucoup de gens se plaignaient de la fréquentation de ce lac, donc nous allons mettre un terme et essayer que les Appalachiens puissent aller pêcher et aller se promener autour de ce lac en toute quiétude. Voilà. Je passe au recours. Qui s'abstient ? Qui vote ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Question 10, c'est les décisions. Y a-t-il des questions dessus ? Les observations, aucune. Madame Souveton, vous voulez juste dire un mot ?
J'ai juste une information. Alors, pour répondre à votre mail sur un thème cet après-midi concernant le centre de vaccination que l'on pourrait mettre en place à la commune. Alors, vous avez vu qu'il n'y avait pas d'autres réunions parce qu'il n'y avait pas aucune avancée là-dessus. Donc, aucune communication à faire, on ne va pas perdre du temps si on n'a aucune réunion. Donc, nous avons eu effectivement une réunion le 20 février avec les professionnels de santé et M. Andoriti. Tout était organisé pour mettre en place ce centre. Le problème était qu'il fallait la présence d'un médecin sur site, ou pas très loin. Et il fallait en plus la carte professionnelle permettant, après la vaccination, de délivrer le certificat de vaccination. Donc, beaucoup d'interrogations, donc tout est resté en suspens. Nous avons contacté, de ce pas, après le week-end, l'ARS, qui nous a indiqué la même chose. Le médecin devait être sur site. Il fallait aussi la carte professionnelle pour la responsabilité. En début de semaine, cette semaine, j'ai contacté Mme Blanquier, infirmière référente au centre de vaccination de Bolène. Elle m'a indiqué qu'elle était dans l'attente du décret permettant l'autorisation de vaccination par les infirmières, mais toujours le même problème de la carte professionnelle. Nous avons aussi reçu un mail du ministère des Solidarités et de la Santé nous indiquant les lignes directrices pour la constitution des centres de vaccination. Même problématique, il faut un médecin sur site. Bon, donc, on est dans l'attente, on est prêt, mais on attend la résolution de ces problèmes. J'attends des nouvelles de Mme Blanquier. Et donc, voilà. Mais bon, évidemment, nous sollicitons l'aide de l'ensemble des élus. Concernant toute la partie administrative, c'est un agent qui s'en chargerait. C'est ce qui avait été décidé lors de la réunion du 20 février. Mais bon, nous attendons pour mettre en place et évidemment, nous ne manquerons pas de vous informer, sans aucun souci. Et si nous avons besoin de vous, bien évidemment, on vous informera, ainsi que l'ensemble des élus.
Merci.
Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ?
C'est sûr que là, nous sommes tous, et d'ailleurs M. Grappin avait soulevé le 20 février, comme quoi nous étions tous sur la même longueur d'onde par rapport aux aides apportées, que ce soit l'agence de droit, la PALU, la liste de la PALU Esport. Il n'y a aucune question politique là-dessus. Voilà, c'est pour le bien de nos lapaluciens et pour que la vaccination aille au plus. Sur ce, ça va être difficile, dû à la COVID-19, je vous demande de faire très attention, bien entendu. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne soirée. Merci à tous.
Merci.